Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, avant de parler de fitness et de tech avec mon invité, j'accueille en visio Luc Julia qui est avec nous depuis la Silicon Valley. Salut Luc.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver depuis ton bureau et ta chaise qui a l'air bien confortable. On voit que Luc Julia a bien étudié. Si vous êtes avec nous à la télé, il a une super chaise de bureau. Hein. Il fait beau Luc ?
Moyen, il fera beau demain.
Ça alors, il fait pas beau du côté de Palo Alto, mais que se passe-t-il ? C'est le monde à l'envers. Bon, on referme la parenthèse. Luc, l'actualité, deux choses que je voulais évoquer avec toi, puisque tu vis, on sait que tu partages ta vie entre la Silicon Valley et Paris aussi, hein, puisque tu es entre autres directeur scientifique du groupe Renault. Aujourd'hui, va être annoncé dans quelques minutes ChatGPT 4. On sait que tu es un spécialiste de l'intelligence artificielle, tu fais ça depuis quasiment toujours. Est-ce que c'est une petite révolution que OpenAI va annoncer là à 21h, heure française, à ton avis ?
Ouais, enfin, on va dire que c'est la suite logique. Hein. On va appeler ça une intelligence artificielle générative multimodale. C'est-à-dire que maintenant, ChatGPT ne va pas seulement générer que du texte, mais aussi des images, de la vidéo, de l'audio. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé dans les mois qui viennent de s'écouler, chacun de leur côté, que ce soit Midjourney, que ce soit OpenAI aussi avec DALL-E, faisait déjà des images ou des vidéos ou de la musique. Donc c'est une nouvelle façon de packager le machin. C'est une évolution super intéressante parce que ça va être, encore une fois, on va pouvoir voir les prouesses de ces intelligences artificielles.
T'es impatient de voir un petit peu ce que va proposer ChatGPT 4, toi en tant qu'expert de l'IA, ça te titille de savoir ce que fait OpenAI avec ça ?
Ça me titille dans le sens où ça va être sympa de voir comment ça va être packagé, parce que ce qu'ils ont bien fait depuis les 2-3 mois où on parle de ChatGPT en particulier, c'est que ils ont bien fait l'interface, on va dire. C'est-à-dire que c'est vachement facile à utiliser. Mais ce qu'ils appellent les large language models, hein, ce sur quoi est basé ChatGPT et les autres IA génératives, ça existe depuis très très longtemps, hein, depuis quelques années. Donc oui, je suis impatient de voir comment va être l'interface pour pouvoir récupérer les choses qui sont générées. Mais comme je t'ai dit, il y a eu déjà dans les mois qui viennent de s'écouler pas mal de ces IA qui sont des IA génératives qui ont déjà proposé des images, de la vidéo, de l'audio. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils ont mis tout ça ensemble.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la surpuissance en fait de ChatGPT 4 qui est une puissance qui est exponentielle par rapport à ChatGPT 3.5. Je sais plus alors quels sont les ratios, mais il y a beaucoup plus de puissance. Est-ce que là, ça peut aussi, à ton avis, changer cette perception qu'on peut avoir de l'IA? Je sais que pour toi, l'intelligence artificielle n'existe pas parce que c'est voilà des algorithmes qui sont bêtes, stupides. Mais est-ce que voilà, grâce à cette puissance de calcul exponentielle, ils vont devenir un petit peu moins stupides?
Je pense pas qu'ils vont devenir beaucoup moins stupides en fait, parce que bon, c'est toujours c'est toujours que de la génération, hein, donc ça veut dire que la créativité reste du côté de ce qui s'appelle le prompt, donc du côté de l'humain qui va demander à l'outil de faire quelque chose, d'accord. Donc c'est la créativité et l'intelligence restent du côté de l'humain. Maintenant, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va être, ça va montrer les diverses médias qui vont être générés. Le truc qu'il faut dire, ce qui est super important, c'est que oui, c'est exponentiel. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment exponentiel, mais en tout cas, c'est beaucoup plus d'énergie qui est demandée et beaucoup plus de puissance de calcul. Ce qui peut être d'ailleurs un énorme problème, parce que il faut comprendre que déjà, ChatGPT, c'était à peu près $700,000 par jour, si tu veux, pour le maintenir, pour le faire tourner, sachant que ça a beaucoup moins de requêtes qu'un Google, par exemple. Donc, je sais pas jusqu'où on va aller, parce que bientôt, il va falloir une centrale nucléaire par jour Si tu veux, pour juste pouvoir soutenir ce genre d'IA. Donc il va falloir quand même faire attention et réaliser ça à un moment donné.
Oui, alors qu'on évoque, c'est une frugalité énergétique ambiante, hein, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup trop d'énergie, c'est vrai que ça va à l'encontre de ce type de discours. Dernière chose, parce que dans l'actualité de l'IA, c'est Google aussi qui a dégainé toute une suite d'outils qui vont passer la moulinette de l'intelligence artificielle. Gmail, avec un truc qui va arriver, visiblement, vous allez écrire un thème que vous voulez dans un mail et Google va vous écrire le mail à votre place. Là aussi, c'est étonnant, hein ?
Ben, c'est en fait ce que fait aussi ChatGPT depuis un moment, hein, donc on a ça. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on se rende compte que ces intelligences artificielles génératives, on va les utiliser dans des cas très très particuliers. Donc je pense que c'est une bêtise de le faire dans le moteur de recherche. On a vu ça avec Bard il y a quelques semaines. Mais par contre, de les utiliser dans des outils particuliers comme Excel ou comme Gmail, ou donc des trucs très très focus, là ça va effectivement pouvoir générer des choses qui vont pouvoir toi, te mettre sur la bonne route, te mettre le pied à l'étrier pour faire ce que tu as à faire dans ces outils particuliers.
On referme la parenthèse IA pour ouvrir celle de la banque et la Silicon Valley Bank qui a, bloqué des dizaines de milliards de dollars. La faillite de cette banque emblématique de la Silicon Valley. J'imagine que tu connais bien cette banque. Luc, j'espère que tu n'avais pas stocké tes économies. Déjà, rassure-nous.
J'y avais plus, non, mais c'est vrai que quand je faisais mes startups dans les années 2000, évidemment, ma banque, c'était la Silicon Valley Bank.
Ouais. Alors, tu vis là-bas, tu es au cœur de ce qui se passe. Comment réagissent les gens ? On en parle autour de toi ?
Oui, bien sûr. Là, depuis 2-3 jours, enfin depuis le week-end dernier, j'ai discuté avec pas mal de gens ici qui sont des start-upers, qui sont des gens qui sont dans le business. Et évidemment, tous sont impactés. Hein. Tous avaient soit des sous, soit des compagnies avec qui ils travaillent qui avaient des sous dans cette banque. Franchement, l'inquiétude est relativement faible, dans le sens où Biden, depuis, a dit que tout serait honoré. Mais de toute façon, entre la FDIC, qui est le régulateur, en quelque sorte, et puis ce qu'on sait de ce qu'il y avait comme sous et pas de sous dans cette banque-là, tout le monde sait que son cash, il pourra le récupérer. Donc, en gros, les gens ne sont pas très inquiets. Bon, c'est vrai que dans la Silicon Valley, on a tendance à être toujours un peu optimiste. Hein, mais bon, pour le cash, on n'a pas trop d'inquiétude. Par contre, évidemment, pour tout ce qui est des prêts et de l'argent qui était de l'argent virtuel, en quelque sorte, là, ça va être un peu compliqué.
Oui, puisque près de la moitié des entreprises technologiques et des sciences avaient un compte en fait, dans cette banque. Incroyable, hein. Bah oui, ça s'appelait la Silicon Valley Bank. Donc voilà, ça faisait partie un peu, c'était l'emblème de cette vallée. Merci beaucoup, Luc, pour toutes ces précisions.
Avec plaisir.